L'ego prétend être le moi réel, le moi total. On doit poser dès le départ l'axiome selon lequel l'ego nous déçoit, nous trompe et nous gouverne sans cesse. Lorsque l'ego, dans tout changement ou toute nouvelle décision, voit un danger pour la continuation de sa propre existence, il crée des peurs, invente de faux espoirs et exagère les difficultés afin d'empêcher ces changements. L'ego est tout le temps là, à nos côtés, guettant l'occasion de nous induire subtilement en erreur, en nous poussant vers de mauvaises décisions et des interprétations erronées. Celles-ci vont gêner notre recherche de la vérité, mais préserver ainsi pour l'ego sa propre vie. Ce qui nous tient occupés à une sorte d'activité après l'autre, mentale aussi bien que physique, jusqu'à ce que de fatigue nous tombions de sommeil, n'est rien d'autre que l'ego. De cette façon, il détourne notre attention du besoin d'entamer l'activité suprême, la plus importante, lutter avec l'ego lui-même pour l'éliminer. Si l'on accepte de les chercher, on retrouvera les machinations secrètes de l'ego dans les coins les plus insoupçonnés, même au sein de nos aspirations spirituelles les plus élevées. L'ego n'accepte pas de mourir, et il est même prêt à accepter cet amenuisement significatif de son envergure, si c'est là le seul moyen d'échapper à la mort totale. L'ego invente constamment de nouveaux moyens pour faire échouer la quête. Et il le fait de manière encore plus infatigable et rusée lorsqu'il prétend coopérer avec cette quête et prendre part à ses expériences. Lorsque l'on voit combien le petit moi personnel nous a apporté de souffrances et de chagrins, de déceptions et de temps perdu, et que, même quand il nous a apporté le succès, ce dernier s'est ensuite avéré faux et trompeur, on en deviendra dégoûté. On ne voudra plus vivre avec l'ego et on aspirera carrément à le fuir. Il est plus prudent de se méfier habituellement de son propre ego et de ses motivations.